Bonsoir, je suis ravie de vous accueillir dans On se fait des films, l'émission qui aime le passé, la mémoire et les beaux fantômes de cinéma qui aident à vivre. Ce soir, je reçois Ariane Toscan-Duplantier, la directrice de la communication et du patrimoine chez Gaumont, pour la superbe exposition sur les 120 ans de la grande société de production à la Marguerite. Et Jean-Gabriel Périot pour son merveilleux film Lumière d'été, qui est sorti en salle hier. Et tout à l'heure, le portrait d'un gentleman rieur, d'un pur génie, Jean Poiret. Cette émission est réalisée par Ghislain Fontana, préparée par Marion Deboire, Clara Marliot, Emmanuel Fournier et Mathias Volant. À la programmation musicale, toujours Muriel Pérez. Et à la technique ce soir, Sacha Trop et Julien Dumont.
Guillemette Audicino. On se fait des films sur France Inter.
Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Ariane Toscan-Duplantier, bonsoir Jean-Gabriel Périot. Ça va être une émission en fait qui va voyager de Angoulême à Hiroshima, mais finalement sur une thématique assez homogène. C'est souvent le passé, et le passé en fait qui aide à vivre, qui peut être douloureux mais qui peut être aussi incroyablement lumineux. Alors honneur aux dames, je commence par vous, Ariane Toscan-Duplantier, au festival du film d'Angoulême, qui se déroule du 22 au 27 août, ça approche, en dehors évidemment de la programmation du festival, de tous les films que Dominique Besnéard sélectionne très très bien chaque année, va avoir lieu l'exposition 120 ans de Gaumont. Gaumont depuis que le cinéma existe. Le sous-titre est joli. Gaumont depuis que le cinéma existe. Exposition qui a déjà cartonné
à Paris.
Mmh. Dans le RER d'ailleurs.
Elle a commencé au 104, qui était déjà une nouveauté que d'aller exposer du cinéma dans le 19e arrondissement. Et je pense que c'est ce qui a en partie, je vais pas minimiser l'intérêt de l'exposition, mais je pense que ça faisait partie du succès aussi, c'était d'aller dans un lieu un peu nouveau et de montrer le cinéma de manière un peu différente. Et puis c'est vrai qu'après, donc ça c'était en avril 2015, et puis peu après on nous a contactés pour savoir si on serait éventuellement intéressés pour travailler avec la SNCF, pour redécorer, maroufler un RER. Donc on a choisi la ligne avec eux, on a choisi le RER D, qui pour plein de raisons nous paraissait assez intéressant. Et c'est vrai qu'on était assez curieux, ils l'avaient fait une fois avec le Palais des Glaces, on était assez curieux de voir comment ça allait être. Et il se trouve que maintenant il roule depuis un an et demi, il n'est pas abîmé, il n'est pas tagué, et c'est vrai qu'il nous l'avait dit en disant vous verrez, il y a un respect par rapport à ce que vous faites. Et donc c'est un concentré d'exposition, je dirais, sur une rame entière de RER, enfin deux rames d'ailleurs, qui vont rouler pendant 5 ans. Et c'est magique, parce que pour la première fois, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que c'est nous qui allons vers les usagers du RER.
Et donc là, vous allez vers les festivaliers d'Angoulême, enfin, et vers les...
Pas que,
et toute la population d'Angoulême, puisque l'exposition ne va pas se situer que pendant le festival, elle va rester.
Elle a commencé le 3 juillet, et elle reste jusqu'au 31 décembre.
Alors donc, 120 ans de Gaumont. Alors, le problème, c'est que là, on se retrouve quand même devant un monument. Alors, par où on commence? Déjà, une question toute bête. J'ai dit, c'est la société de production à la Marguerite. Alors, pourquoi Gaumont? Et d'ailleurs, c'est toujours ça, quand on voit les génériques là, qui s'ouvrent avec les pétales. Pourquoi la Marguerite Gaumont?
Parce que la maman de Léon Gaumont s'appelait Marguerite.
Donc, oui, c'est tout bête, mais
c'est assez simple.
C'est assez simple.
C'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça.
Ouais.
Alors, 120 ans de Gaumont, comment on crée une exposition pour raconter, en plus donc pratiquement, les débuts du cinéma, puisque Gaumont, en fait, commence pratiquement, effectivement, au moment des Frères Lumière.
Mais oui, en fait, Léon Gaumont rachète les comptoirs de la photographie en 95. C'est un ingénieur, il est plutôt intéressé par les inventions, par les appareils. Après, on est dans la pleine période de recherche du cinéma. Tout le monde est très excité. Chacun, Edison, les Frères Lumière, enfin, tout le monde s'y essaye. Mais après, pas forcément Léon Gaumont tout de suite. Mais il voit bien qu'il y a quand même quelque chose à faire. Mais il part de la photographie. Et puis, il... Il,
Bah comme les Frères Lumière, d'ailleurs.
Il est invité à la première projection, non pas celle du Salon Indien, qui est publique, mais celle pour les professionnels, qui a lieu à Saint-Germain-des-Prés, dans l'établissement. Alors, c'est horrible, parce que je vais accrocher, mais bon, bref.
C'est dans la Maison des Inventeurs, en fait.
Oui, alors ça s'appelle la Société pour...
La Société Industrielle d'Aide.
Bref, qui existe encore et que nous aimons beaucoup, et pardon d'accrocher le nom. Et là, il y va avec son assistante, Alice Guy.
La première femme de cinéma de l'histoire.
La plus grande. Et alors, Alice Guy, elle, s'emballe assez rapidement pour ce qu'elle voit. Donc, les premiers films, enfin, le premier film des Frères Lumière. La sortie des usines. Et elle trouve ça absolument génial et dit tout de suite à Léon Gaumont, mais voilà, je veux dire, vous allez faire les appareils et puis on va faire des petites scénettes, des films pour vendre les appareils. Alors, l'histoire veut, j'espère que c'est vrai, parce que c'est magnifique, que Léon Gaumont lui ait répondu très bien, mais en dehors des heures de bureau. Des fois, aucun machisme.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en dehors des heures de bureau, Alice Guy a réalisé des courts-métrages à l'époque, dont un, d'ailleurs, où elle inverse la donne entre un homme et une femme.
Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de notion de court-métrage. Il y a des notions de film. Elle est persuadée qu'il faut écrire des scénettes et qu'il ne faut pas seulement filmer des choses de la vie et que les gens ont besoin de se divertir et de se distraire. Elle en tourne énormément, puisqu'il y a une partie en France, puis après elle part aux États-Unis. Mais puis aux États-Unis, elle monte un studio. Enfin, c'est la première réalisatrice et productrice. C'est une femme méconnue en France, mais qui gagne à l'être parce que c'est une femme unique et incroyablement moderne.
Mais alors, sur 120 ans, donc comment on construit une exposition? Évidemment, on commence sur ça, l'enfance
Le début.
Le tout début.
Les appareils.
Les appareils, toute la machinerie.
Et puis la notion. Que très rapidement, ils avaient tous inventé le relief, la couleur. C'est qu'on a des films insensés dès 1903-1904, de Venise en couleur, de Deauville, où on voit mesdames se baigner en couleur. Voilà. Mais après, la complexité est de le faire sur la longueur. Mais qu'en tous les cas, Léon Gaumont était persuadé qu'il fallait que ce cinéma soit en couleur et en relief.
Et après, alors, le catalogue Gaumont. Alors, le catalogue Gaumont, il y a combien de films dans ce qu'on appelle le catalogue?
Il y a plus de 1000 films. Alors après, chaque film a son histoire, puisqu'il y a des films issus de la production Gaumont, puis il y a des films qui sont issus de rachats de catalogue, comme tous les catalogues, mais qui sont maintenant incorporés à notre histoire. Et notamment des films également qu'on a produits qui ne sont plus dans le catalogue Gaumont. C'est-à-dire que ça existe. Certains ont fait leurs entrées et d'autres leurs sorties.
Mais alors justement, ça, expliquez-nous comment un film produit par Gaumont peut soudainement ne plus lui appartenir.
Mais parce que les films ne nous appartiennent pas. Ce qui nous appartient, c'est un mandat d'exploitation. Enfin, bon, c'est un petit peu, c'est pas très drôle, mais enfin, c'est un mandat d'exploitation. C'est-à-dire que nous sommes autorisés par les ayants droit, c'est-à-dire les ou bien le réalisateur, enfin ou bien les auteurs qui s'ils sont encore en vie, ou bien leurs ayants droit s'ils sont décédés, nous sommes mandatés pour exploiter les droits vidéo, télévision, cinéma et vente à l'étranger, qui sont les quatre mandats. Et bon, et maintenant évidemment les mandats VOD, SVOD et autres, non encore connus à ce jour, selon la bonne expression contractuelle. Donc nous sommes mandatés, nous ne sommes pas, alors nous sommes propriétaires d'un certain nombre de choses, mais les films, alors après les films d'Alice Guy par exemple, eux sont tombés dans le domaine public, donc les copies nous appartiennent, ce qui nous appartient c'est le matériel, mais l'exploitation appartient aux auteurs ou à leurs ayants droit.
Et alors donc dans cette exposition, comme ça, il y a quoi?
Alors d'abord,
vous avez une seconde.
Il y a tout.
Ariane, ce qu'on se plante.
Venez, il y a tout. Non, je voudrais dire qu'elle est très différente de celle de Paris. Parce que comme vous l'avez dit, 120 ans c'est long, on raconte ce qu'on a envie de raconter. On s'est adapté non seulement à un lieu incroyable que nous a mis à disposition le département, et qui est un lieu qui devait être un musée du cinéma, qui pour plein de raisons n'a jamais pu ouvrir, hein, qui est à côté du musée de la BD. Et donc nous avons un lieu que nous n'aurons plus jamais, parce que on ne pourra pas déménager l'exposition avec ce que le lieu nous proposait. Donc ça donne une ampleur et une autre vision de l'histoire. Et même moi, je veux dire, qui ai travaillé sur les deux, celle de Paris et celle d'Angoulême, Quand je suis finalement rentrée dans celle d'Angoulême, une fois terminée de la préparation, je me suis dit, mais c'est incroyable que ça soit la... C'est pas la même exposition. C'est la même histoire, mais ce n'est pas la même exposition.
Alors, on va tout à l'heure entendre, et avant de passer à Lumière d'été et de déménager directement à Hiroshima, on va entendre évidemment quelques extraits. Alors, on a fait sur les 1000 films, nous en avons choisi quelques-uns. Mais d'abord, une petite chanson.
Talons piqués, cuir de star, cheveux dressés, blonds, trottoir.
Impératrice, Sultan des îles.
France Inter, on se fait des films. Guillemette Odissino.
Alors, on se fait des films à Angoulême et à Hiroshima. Avec Ariane Toussaint-Duplantier, la directrice de la communication et du patrimoine de Gaumont, pour la magnifique exposition qui est en ce moment au festival d'Angoulême et qui va continuer donc, sur les 120 ans de Gaumont. Et Jean-Gabriel Perriot pour Lumière d'été. Un film magnifique à la grâce. Merci. Et qui est en salle depuis hier. Il faut absolument y aller. Alors, une petite note de Gaumont. Et hop, on voyagera jusqu'à Hiroshima. Parce que vous en profitez. Très bonne idée, Ariane Toscan-Duplantier. En plus de l'exposition, vous proposez pendant le festival d'Angoulême de Dominique Besnéard de projeter du patrimoine Gaumont en plein air. Donc, combien? 5 films, 6 films?
On projette, en fait, pendant toute la durée de l'exposition, on projette 60 films.
Ah.
Mais pas en plein air.
Ah, donc ça, j'avais raison sur le plein air.
D'accord. Donc, c'est tout à fait correct, parce que l'exposition, elle ne peut pas ne pas être accompagnée quand même d'une rétrospective de films. Mais cette rétrospective s'arrête pendant le festival d'Angoulême, et pas remplacée, mais on va dire qu'à la place, quand même, il y aura 4 films de patrimoine projetés en extérieur dans 4 lieux différents.
Et alors évidemment, on va passer peut-être d'autres extraits, mais le premier extrait, forcément, on était obligé, voilà, Jeanne Moreau, donc Ascenseur pour l'échafaud.
Je t'ai perdu dans cette nuit, Julien. Il fallait te laisser tranquille, ne pas t'embrasser, ne pas caresser ton visage. Si tu n'as pas tué Simon, tant pis. Si tu as eu peur, tant mieux. Mais il faut que tu reviennes. Il faut que tu sois là, vivant, à côté de moi. Julien, il faut. Il faut.
Et il faut. On se connaît. Suburbie. Christian Suburbie. Je suis un pote de Julien. On s'est vu un soir.
Ah oui, je me rappelle vaguement. Vous aviez un peu bu.
Ah, j'en tenais une sérieuse. C'est un lâcheur, ce vieux Julien. On s'est connus à Alger.
Vous étiez officier ?
Ah non. J'étais dans les trucs pour le froid, les réfrigérateurs.
Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Donc, alors, vous aviez prévu de projeter ce film-là avant le décès de Jeanne Moreau ?
Absolument. Il se trouve qu'on a récupéré avec la plus grande joie les films de Louis Malle au catalogue Gaumont. Nous les avons tous restaurés l'année dernière et donc nous recommençons à les montrer en version restaurée. Et avec une grande joie, évidemment, Ascenseur sur l'échafaud qui sera projeté sur la place du Palais de Justice. On trouvait que ça avait un certain...
Ça a de la gueule.
Ça a de la gueule, c'est ça. Voilà, malheureusement, entre-temps, ou heureusement, parce que je suis heureuse que du coup nous puissions rendre hommage à Jeanne Moreau.
Alors, je vais voyager jusqu'à Hiroshima. Enfin, comme le héros de votre film, Jean-Gabriel Perriot, qui est donc Lumière d'été. C'est l'histoire d'un cinéaste japonais, mais qui travaille en France et qui part à Hiroshima pour recueillir en fait le témoignage d'une survivante d'Hiroshima, une Hibakusha.
Oui.
C'est comme ça qu'on appelle les survivants d'Hiroshima.
C'est le nom japonais pour spécifiquement les survivants de la bombe atomique.
Et on entend un tout petit peu de Lumière d'été. Alors, Lumière d'été, ça commande votre cinéaste, votre héros, Akihiro, filme donc le témoignage de cette vieille dame. C'est un plan fixe absolument superbe. Et on se dit, tiens, c'est un documentaire, puisque Jean-Gabriel Perriot, pour le moment, c'est magnifiquement illustré. On entendra tout à l'heure un extrait de votre documentaire précédent. C'est magnifiquement illustré dans le documentaire. Et puis non, pas du tout, le Lumière d'été est votre première fiction.
Oui.
Alors déjà, le passage du documentaire à la fiction, mais quand même avec cette première séquence où on a l'impression que vous-même, vous passez doucement dans votre film du documentaire à la fiction.
Ouais, il y a un peu ça. En tout cas, pour moi, c'est assez... Le passage est très naturel, mais d'une certaine manière, donc, que ce soit dans Une jeunesse allemande ou même dans mes courts-métrages précédents, je fais toujours des films un peu intermédiaires. Enfin, Une jeunesse allemande est un film documentaire parce que c'est un film d'archives, mais il est écrit comme un film de fiction. On suit des personnages, on est au présent de l'indicatif. Donc on est dans le registre du réel, mais en même temps, la manière de le rentrer est utiliser des clés vraiment de la fiction. Et j'aime beaucoup l'entre-deux. Et là, j'aimais bien quand même le piège d'aller voir un film de fiction et de commencer par quelque chose de très documentariste, dont on voit la mise en scène, mais du coup, ça me permettait de jouer quelque chose. Et effectivement, quand la fiction arrive, on se dit, ah oui, bon, finalement, c'est bien un film de fiction.
Oui, d'autant que cette vieille dame, on est vraiment persuadé pendant la séquence que c'est vraiment une survivante d'Hiroshima, et en fait, c'est une actrice extraordinaire. C'est génial. Oui. Non, mais c'est vrai. Donc, on est vraiment.
Dire, je crois.
Pardon ?
Il fallait pas le dire.
Bah, elle est au générique.
Hein,
elle est au générique. Mais, et donc, et après ce cinéaste, après ce long moment où il recueille ce témoignage, va commencer à se promener dans les rues d'Hiroshima. Et il va, alors là aussi, alors là, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais il va rencontrer une délicieuse jeune femme.
Oui.
Qui va lui faire visiter.
La ville.
La ville. Qui va aussi l'emmener après, lui faire rencontrer un vieux monsieur, un petit garçon. C'est vraiment c'est un film, c'est, j'ai peur de juste, maintenant qu'Ariane Toscan-Dupontier me regarde avec un air, ne dit pas ce qu'il faut pas dire. Alors, mais c'est un film où disons que le passé revient, mais avec une douceur pour un peu penser la douleur de cet événement, atroce, quoi.
Oui, c'est. Je pense que, enfin, en tout cas, c'est ma manière dont moi je ressens le passé, l'histoire, que je me confronte à la catastrophe, c'est qu'on a l'obligation de revenir au passé, d'essayer de comprendre quelque chose, et aussi de s'en échapper. Enfin, faut être au présent. On peut pas rester non plus dans le passé, mais c'est comment ce passé peut nous aider à avoir un présent plus riche. Et le film montre ça. C'est on s'éloigne d'Hiroshima. On quitte Hiroshima dans le film, elle le guide en dehors de la ville, et en même temps on voit que quelque chose a changé chez lui. C'est très simple, mais quelque chose a changé, et d'une certaine manière, la manière dont il se rappelle cette interview, dont même nous on s'en rappelle, en fait ça s'étiole, mais il y a encore des échos, quoi. Il y a quelque chose qui bouge avec ça.
Alors pour donner juste une piste quand même, et puis aussi pour parler de la grâce du film, c'est que on peut dire que ce cinéaste découvre aussi dans le réel, découvre du merveilleux.
Oui.
Voilà. Alors point de suspension. Du merveilleux.
Du merveilleux.
Alors oui, vous parlez de votre documentaire précédent qui avait été énormément apprécié, soutenu par la critique et tout, une jeunesse allemande, qui était alors un. Enfin, une compilation incroyable et très scénarisée, effectivement, d'archives sur la bande à Bader et vraiment le début aussi, vraiment la construction de Fraction Armée Rouge. On va entendre un tout petit bout.
La parole seule ne transformera pas les hommes de gauche en révolutionnaires. Seule l'action plus la parole le feront. Et encore, ce n'est pas assez puisqu'un jeune blanc peut toujours se replonger dans son abondance illusoire de privilégiés à peau blanche. Toujours, à moins qu'il ne se plonge totalement dans la révolution, non seulement par les idées, mais par tout son style de vie. Et en ce moment, la lutte armée est en train de passer de plus en plus dans le fond commun. Et pas sous la forme de simples sabotages, mais sous celle d'attaques directes contre toutes les forces, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, du système impérialiste.
Donc, une jeunesse allemande, vous l'avez réalisé il y a 2 ans ?
Ouais, il y a 2 ans, c'était.
Mais là aussi, alors, cette volonté comme ça de. C'est quoi ? C'est une fois de plus rappeler, volonté de mémoire. Ça doit être un travail fou de. Parce que c'est vraiment, enfin, un documentaire d'archives, mais absolument passionnant. Hein.
Bah, c'est 10 ans de travail.
Ah oui, d'accord. 10 ans, ah.
Oui, parce que c'est des archives qui sont. Qui étaient un peu enfouies. Surtout que ces archives allemandes en France, on a des très belles institutions qui gèrent l'archive et qui l'archivent très bien. Enfin, il y a la Gaumont, mais il y a l'INA. C'est aussi simple, ça paraît bête, mais on va sur Internet, on tape un mot-clé et on peut accéder aux archives. En Allemagne, ça n'existe pas. Il y a même la plupart des pays du monde, ça n'existe pas. En Allemagne, il y a une dizaine de chaînes de télé. Il faut aller là-bas physiquement, la plupart des choses ne sont pas référencées, il faut regarder toutes les émissions d'une année quand on cherche une chose en particulier. Du coup, ça prend du temps. Voilà. Et c'était des archives des années 60, c'est vraiment, elles étaient un peu enfouies. Donc c'était juste le temps de les trouver. Donc oui, ça a pris beaucoup de temps. Et en même temps, voilà, c'était un temps qui était nécessaire.
What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run.
don't have to rush when you're alone with me. Perfect time. I'm just trying to get you high. Faded up this touch. You don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you can do. Just a simple time.
The Wicked, I Feel It Coming.
On se fait des films.
On se fait des films. On se fait des films au Festival d'Angoulême et des films aussi en photo et en exposition avec les 120 ans de Gaumont depuis que le cinéma existe. Et nous avons avec vous Ariane Toscan-Duplantier, la directrice de la communication et du patrimoine. Là, pour le coup, c'est patrimoine qui compte chez Gaumont. Et nous sommes aussi avec Jean-Gabriel Perriot, réalisateur jusque-là de très grands documentaires, et là de son premier film de fiction qui est magnifique et qui est sorti hier en salle, Lumière d'été. Alors, dans ce pont un peu particulier entre Angoulême et Hiroshima, on va retourner un petit peu à Angoulême pour les séances en extérieur, en plein air. Donc, vous nous avez dit, Ariane, qui aurait Ascenseur pour l'échafaud, qui serait montré au festivalier. Et bon, on pouvait pas ne pas mettre un petit bout d'eux, parce qu'il y a aussi un éléphant, ça trompe énormément.
Le lendemain, c'était jeudi, et bravant les questions de Marthe, je sortais mes bottes de cheval du sac où elle séjournait depuis 1958, l'année du retour du général de Gaulle au pouvoir, bien qu'il ne faille chercher aucune relation entre les deux affaires. Cet été-là, à l'île d'Oléron, et entraîné par des fanatiques, j'avais un peu pratiqué l'équitation, tentative qui s'était soldée par une rupture entre ce genre de bête et ma personne. Et Marthe ne manqua pas de me le faire observer. Je lui répondis avec verdeur qu'elle reprenait bien ses études 20 ans après son dernier échec. Puis je l'embrassai en me blâmant de mon emportement. « et je quittais la maison ainsi costumée, au bras de ma marraine, avec qui, par tradition, je déjeunais ou dînais seul tous les jeudis de ma vie. Je ne me retournais pas dans la rue, mais je savais que Marthe m'accompagnait du regard. Elle restait intriguée, tout comme le premier cheval qui eut affaire à moi.
Jean Rochefort, Un éléphant s'est trompé énormément. Pendant l'extrait, nous disions que c'est ce film, on peut l'avoir vu 12 fois. Si on tombe dessus, c'est fini, on est complètement prisonnier, on y retourne. Jean-Gabriel Perriot, vous me semblez avoir l'âge de Un éléphant s'est trompé énormément à la télé le dimanche soir.
À la télé,
soir,
ouais, à la télé plutôt chaque année, non?
Chaque année. Mais chaque année, du coup, on est coincé, on le regarde à nouveau.
Oui,
quoi.
Mais
ouais,
c'est des films dont on se lasse pas, parce que finalement, après, quand on commence à bien les connaître, alors on attend les moments, les petites perles, les petites. Alors c'est vrai, d'abord, c'est un film qu'on aime particulièrement. On avait envie de rendre aussi un hommage à Victor Lanoux, jusqu'à la disparition, la perte de Victor Lanoux, on se targuait de se dire qu'ils étaient encore tous là et que c'est important de leur rendre hommage. Et voilà. Et le film est passé pour nous. Alors, je ne sais pas très bien ce que veut dire culte, mais voilà, c'est un film qui est passé. Il est intemporel. C'est comme s'il ne pourra plus vieillir. Il est resté figé dans son époque.
Parce que dans le catalogue Gaumont, il y en a quand même une bonne pelletée de films cultes, comme vous dites.
Il y a de tout dans le catalogue Gaumont.
Il y a de tout dans le catalogue Gaumont. C'est comme à la Samaritaine, on trouve tout ce qu'on veut. Il y a aussi évidemment Les Tontons Flingueurs, qui je crois aussi est projeté, non?
Ah oui, surtout que c'est une aventure assez marrante, parce que là on vient de le re-restaurer en 4K, mais alors je vais avoir tout oublié, c'est le retour de vacances, je m'en excuse, mais on est passé par un site de financement participatif. Et là, il y a eu un engouement. Alors les tontons, alors lui, c'est pas tous les ans, c'est tous les 6 mois qu'on peut,
c'est toutes les deux secondes.
Mais c'est pareil, les tontons, on ne s'en lasse pas. Et donc là, on a une magnifique restauration 4K et on va faire la première projection à Angoulême, là aussi en extérieur.
Ah donc, et dans une nouvelle version, toute neuve.
Pas nouvelle.
Restauration.
Oui, c'est ces histoires de.
Et en partie grâce aux internautes.
En grande partie grâce aux internautes et on a gagné. On a gagné 2K. Alors bon, je ne sais pas si on peut voir une vraie différence.
C'est un éléphant plus 2K, c'est pas mal comme punchline.
Donc on est à 4K. Moi, je pense qu'on peut encore progresser et bientôt passer à 8K, car on m'en parle du 8K. Non, mais les tontons, voilà, on peut le revoir. Une pépite.
Et alors, dans le catalogue Gaumont,
oui.
Ariane Toscan du Plantier, il y a évidemment des films qui ont été produits par votre papa.
Ah, celui-là.
Celui-là, tout à fait. Daniel Toscan du Plantier. Là aussi, si on cherche dans les films produits par votre papa, il y a vraiment des merveilles. Alors, on en a.
Là en aussi, il y a de tout.
Il y a de tout. Vous dites ça avec une pointe d'ironie.
Non, mais d'abord, je pense que comme pour un réalisateur, un producteur, on ne peut pas faire que des merveilles. Et puis, voilà, donc il y a des choses magnifiques, il y a des choses probablement un petit peu moins bien, mais heureusement, il faut de tout, donc, y compris chez Toscan.
Bon, alors nous, on a choisi que le meilleur, pardon.
Vous avez bien fait, quand même.
Voilà, merci. Et on a d'abord choisi, en fait, le cinéaste, dont il a produit pratiquement tous les films.
Presque,
un monument. Et du coup, on a choisi le monument de ce cinéaste monument, Van Gogh.
C'est terrible, toi. Hein, tu trouves au moins de te fâcher avec tout le monde. Hein, même Gachet, tu te fâches avec Gachet aussi. T'es insolent avec Courrier. Tu sais, hein, ça change rien, hein, mais c'est des types comme Courrier qui font vendre. Hein. Les acheteurs achètent autant. Ils achètent même plus la peinture. À travers les articles qu'ils ont eus, que la peinture elle-même, tu sais aussi bien que moi, ça.
Mais je sais ce que tu vas dire. Tous ces cons qui lisent un type qui dit que c'est beau en jargonnant, et avant de voir, ils ont décidé que ce qu'ils vont voir, c'est beau. Et comme Théorier et compagnie écrivent à peu près la même chose sur ce qui est bon que sur ce qui est mauvais, ils aiment tout.
Bah oui, bah on appelle ça l'éclectisme, oui.
Bah merde.
Donc Van Gogh, évidemment, de Maurice Pialat. Les rapports entre votre père, Ariane, et Maurice Pialat, c'était vraiment fusionnel.
Oui, je pense que c'était très important, enfin en tous les cas pour mon père, je ne vais pas parler pour Pialat, mais moi j'ai toujours vu Pialat rôder, enfin longtemps, enfin rôder négatif, ce terme est horrible, enfin être dans son entourage. Moi j'ai pas du tout de nostalgie d'une certaine époque, mais ce que je vois moins aujourd'hui, c'est ça, c'est les binômes réalisateurs-producteurs. Qu'on vivait alors chez Gaumont dans les années Poiret, il y avait des vrais binômes et je pense que aujourd'hui ça se fait moins et que ça devait être, j'imagine à l'époque, assez agréable pour un réalisateur d'avoir comme ça un producteur sur qui il pouvait se reposer, il savait qu'il pouvait voilà proposer tout ça, et de la même manière pour un producteur de pas avoir peur de perdre son réalisateur à chaque film parce qu'un plus offrant allait passer par là. Il n'y a pas que l'argent, bien sûr, mais je veux dire, voilà, et que peut-être
cette fidélité.
Oui, je pense qu'ils se sont fait du bien l'un à l'autre. C'est-à-dire que je pense que Pialat devait avoir quelque chose qu'il aurait aimé avoir, certainement, et qu'il le regardait avec une immense admiration et un immense respect. Et c'était, je pense, de ce que j'ai pu voir, pas un cinéaste facile au quotidien et sur les tournages. Et en même temps, pour ceux qui aiment ce cinéma, le résultat était là quasi à chaque fois. Et je l'ai vu voilà, vivre des grands, grands bonheurs et des grands, grands stress également.
avec Maurice.
Mais avec notamment voilà, quelques cannes mythiques. D'ailleurs, ça, par exemple, on l'avait mis dans l'exposition du 104. Juste cette petite partie où Deneuve remet sa palme d'or. Alors, pas pour Van Gogh, mais...
Pour Sous le soleil de Satan.
Pour Sous le soleil de Satan, où il fait... Alors, ce qui a été discuté après, est-ce un bras d'honneur? N'en est-ce pas un? Bon, ça aura jamais vraiment... Enfin, la phrase
c'est-à-dire
qui suit...
C'est le moment où il est hué, enfin, moitié acclamé, moitié hué...
Par le balcon oui. de cette grande salle que nous connaissons. Et il dit, voilà...
Si vous ne m'aimez pas, moi, je ne vous aime pas non plus.
Et voilà, bon. Après, voilà, ça fait partie de sa personnalité.
Et Jean-Gabriel Perriot, ce rapport producteur-réalisateur, c'est important, pour Lumière d'été. Parce que quand on est justement un documentariste, même si on a eu beaucoup de succès avec ses documentaires, passer à la fiction, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on change de producteur? Est-ce que le producteur vous suit, vous dit oui, je te fais confiance? Comment ça se passe?
Très simplement. En tout cas, moi je pense que j'ai de la chance, je travaille avec... Pas un seul producteur, mais plusieurs producteurs, mais on est fidèles. Donc du coup, je pourrais arriver avec n'importe quoi, je pense qu'il me dirait oui.
Ah bah voilà.
Enfin, faudrait vraiment, enfin, spontanément, oui. Après, faudrait pas non plus, faut pas exagérer, mais en tout cas, il y a de la confiance. Donc du coup, on arrive avec un projet, mais effectivement, ça change. Et de toute façon, les producteurs, on n'est plus sur le même métier. Enfin, quelque chose a bougé.
Quelque chose a bougé. Indéniablement. Alors... Pas pour le moins bien, hein. c'est une évolution, je pense, naturelle. Mais c'est vrai qu'il y a des grands binômes de producteurs-réalisateurs très connus, et je pense que voilà, c'est important pour l'un comme pour l'autre que d'avoir cette confiance et pas avoir peur. Et pour un réalisateur, que le producteur ne le suive pas au film d'après, et inversement. Voilà. Mais bon, ils ont forcément gagné autre chose. Mais...
Enfin bon, la fidélité, donc quand même, c'est bien.
Partie de gens dans l'air, le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage. D'un verre de Campari, du bon vouloir, de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire. On flaire la flamme singulière. On gagne. On perd. l'amour crasse, d'un simple démenti, d'une mauvaise vie, d'une mauvaise passe. Le silence est aussi pesant qu'un porte-avions qui passe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un sacrifice, d'une mort à crédit, d'un préjugé et d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire, on flaire la flamme singulière. On gagne, on perd, on perd la gagne, la superbe. Dieu merci et la merci d'un imbutal, du plafond décrépit qu'on observe à l'horizontale. Le soleil est parti, la neige tombe sur les dalles. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci et la merci d'un lampadaire, d'une douleur endormie, d'un chasse-esprit, d'un soir d'hiver. La vieillesse ennemie reste la seule pierre angulaire. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire, on flaire la flamme familière. On gagne, on perd la gagne, la superbe. Reste, Dieu merci, et la merci d'une étincelle, quelque part à Paris, au fin fond du bar d'un hôtel. Dès la prochaine vie, je rêve de se rester fidèle. Quelle aventure, quelle aventure. La superbe, la superbe.
Benjamin Biolay, La Superbe. Oh là là, oui.
Guillemette Audicino. On se fait des films sur France Inter.
Alors, je suis en compagnie d'Ariane Toscan-Duplantier pour l'exposition 120 ans de cinéma de Gaumont, sous-titrée Gaumont.
Depuis que le cinéma existe.
Depuis que le cinéma existe, c'est beau. Et de Jean-Gabriel Perriot pour Lumière d'été, qui est sorti hier au cinéma. Donc un film que vous avez donc tourné à Hiroshima. Vous allez souvent au Japon?
Oui, j'essaie d'y aller une fois par an. Quand il y a les vacances, quand il y a des vacances, c'est que j'ai un peu de temps, parce qu'il faut un peu du temps au Japon. Enfin, c'est un peu loin, et puis le plus important, enfin, quand on va à l'étranger, pour moi, c'est de passer du temps, et surtout à Hiroshima avec mes amis. Et... voilà.
Parce que, donc, vous allez à Hiroshima, en fait, quand oui, vous allez au Japon.
J'ai vraiment connu le Japon en faisant le 200 000 fantômes, mon premier court-métrage. J'ai fait là-bas, j'y ai passé tout un été. Après, je suis retourné montrer le film plusieurs fois. Du coup, j'ai rencontré entre mon équipe, les gens que j'ai rencontrés. Et maintenant, c'est un quotidien, quoi.
Alors, 200 000 fantômes, justement. 200 000 fantômes, c'est un court-métrage que vous avez réalisé en 2007.
Oui.
Qui, là, est un collage de photos du dôme de Jinbaku. Donc ce dôme qui en fait finalement presque personnifie Hiroshima, c'est-à-dire a été détruit,
c'est
mais en même temps il est resté
de la ville,
ouais. Le symbole de la ville. Il est quand même resté debout,
oui.
Ce monument.
Parce qu'il était en béton.
Oui.
Le béton résistait un peu, donc au milieu de tous les bâtiments en bois, voilà, ce bâtiment est resté en l'état.
Et donc c'est la première fois que vous allez à Hiroshima pour faire un film. Mmh. Et alors ce court-métrage est présenté en première partie de Lumière d'été.
Oui. C'est un peu, on est un peu à l'ancienne, on a un court métrage avant le long métrage, ce qui me manque moi personnellement. Et...
dans les projections?
Ah oui, moi j'aimais beaucoup ça.
Rien Toscan-Duplantier, on peut pas faire des spéciales Gaumont avec des courts métrages devant et tout?
Alors, nous avons assez peu de courts-métrages, nous. Enfin, on en a quelques-uns, mais assez peu.
Bah, des courts-métrages d'Alice Guy, par exemple.
Ah, ça, on en a plein. Ce n'est pas des courts-métrages, je vous ai déjà dit.
Ce sont des films de courte durée. Oui, il n'y a rien de ce qu'on est content.
Si, mais en fait, ça ne rentre plus du tout dans le schéma économique de la salle. C'est un peu ça, le problème. Il y a les pubs, il y a les bandes annonces et il y a le film. Et il n'y a plus du tout de place pour les
films. Mais là, la cohérence, c'est qu'en fait, c'est votre travail documentaire sur Hiroshima suivi de votre travail de fiction.
Oui, il y a un lien direct. Oui. En plus, les deux films se complètent d'une certaine manière, puisque le premier montre des images historiques de Hiroshima. Tandis que dans le deuxième film, on a un témoignage de quelqu'un à l'image qui témoigne sans aucune image. D'autres que son visage. Et du coup, ils se complètent l'un l'autre, en fait. Mais ils se complètent.
Et après, le Hiroshima, aujourd'hui et maintenant, donc, où la vie, quand même, est la plus forte.
Oui.
Est-ce que, évidemment, tout le monde pense à ça, si on croise cinéma et Hiroshima, est-ce que pour vous, Hiroshima, mon amour, c'est un film qui vous a marqué, quand vous étiez adolescent, c'est important pour vous, le film d'Alain René?
Ah, c'est très important, mais je pourrais dire ça de plusieurs films d'Alain René. Hein. mais celui-là, oui. Je me rappelle, je l'avais vu, mais j'étais trop gamin quand je l'ai vu la première fois, sûrement à la télé, en ciné-club d'Antenne 2 ou un truc comme ça. Et je l'avais revu des années après quand je préparais 200 000 fantômes. Et ce qui était étrange, c'est que juste avant 200 000 fantômes, j'avais fait un film sur les femmes tondues. Et du coup, quand je revois, je me dis, mais j'avais oublié ce passage-là dans Hiroshima, mon amour. Et
oui,
du coup,
Emmanuel Riva, en fait, dit à son amant japonais, quand lui dit, de toute façon, tu ne comprendras jamais Hiroshima, et elle lui raconte qu'elle a été tondue.
Voilà, juste après la libération. Oui. Et du coup, je me retrouvais un peu dans le même... Je refaisais deux courts-métrages qui, voilà, se retrouvent d'une certaine manière, dont les sujets se croisent dans Hiroshima, mon amour. Et je comprenais d'autant plus le lien qu'avait fait Duras entre ça, puisque je l'éprouvais là, dans ces deux projets qui étaient assez liés pour moi. Non, c'est un film splendide. Enfin, c'est à Hiroshima, en tout cas, les amis autour de moi qui parlent de cinéma et qui en parlent, c'est le film sur Hiroshima, du monde entier. Hein. C'est l'œuvre principale qui témoigne de la catastrophe d'Hiroshima. Donc c'est un film aussi très important pour eux. Et non, c'est un film très fort. Un film qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui.
Heureusement, alors que le patrimoine est là et que les films restent, on en entend un petit morceau.
Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien.
J'ai tout vu. Tout. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu. J'en suis sûre. L'hôpital existe à Hiroshima. Comment aurais-je pu éviter de le voir?
Tu n'as pas vu d'hôpital à Hiroshima. Tu n'as rien vu à Hiroshima.
La voix de Emmanuel Riva, magnifique. Cette voix, elle a gardé la même voix depuis le film d'Alain René jusqu'à la fin.
Ah non, mais c'est vrai, on se disait qu'elle n'avait pas assez joué, on a le sentiment qu'on ne l'a pas assez entendu quand on entend là deux minutes.
Le Japon, alors moi j'ai trouvé, il fallait vraiment chercher loin, mais j'ai trouvé un lien, enfin de Gaumont avec le Japon, un lien tout récent, d'autant qu'en plus c'est un film d'animation que nous adorons dans cette émission, parce que c'est un cinéaste incroyable que les gens doivent découvrir si par hasard ils ne le connaissent pas, c'est Mamoru Hosoda. Ce n'est pas une contrepétrie, hein. Mamoru Hosoda, qui a fait Les Enfants Loups, chef-d'œuvre, et qui a fait ensuite, chez Gaumont, qui a fait Le Garçon et la Bête.
J'en ai marre, c'est trop dur.
Quoi?
T'es nul comme prof.
Exerce-toi au lieu de râler.
Non.
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 Ah, je vais le tuer.
Faut lui expliquer clairement. Il débute, c'est normal qu'il ne
sache. Ça va, c'est bon. Sache que mes explications sont très claires, d'accord? Il faut tenir le sabre avec ton cœur. T'as un cœur, eh ben il faut tenir ton sabre avec.
N'importe quoi.
Comment ça, n'importe quoi? Comment ça, n'importe quoi? Le sabre avec le cœur. Le sabre avec le cœur. Maintenant, vas-y, à toi. Allez.
La Bête de Mamoru Hosoda, un film d'animation épatant. Épatant, il faut absolument que tout le monde déjà voit toute la filmographie de Mamoru Hosoda. Alors comment Gaumont se retrouve sur un film d'animation japonais?
Oh bah parce que il cherchait justement des liens en France pour changer de distributeur et puis pour aussi vendre à l'étranger son film. On est assez lié au Japon. Le cinéma français fonctionne plutôt bien au Japon. Nous y allons régulièrement. Nos films, ils sont quand même, enfin tous les films français d'ailleurs, hein, ils sont quand même beaucoup projetés. C'est un bon territoire, comme on dit, pour le cinéma français.
Oui, et Unifrance qui s'occupe du cinéma français à l'étranger a un festival au Japon.
À son festival au mois de juin. Il y en a un autre au mois d'octobre. Et puis voilà. Et puis il y a un vrai travail qui est fait par les distributeurs avec des vraies sorties en salle, du marketing. Enfin bon, comme on l'espérerait. Partout. Voilà, donc des liens avaient été établis entre les deux maisons. Nous, c'est un cinéaste qu'on regardait un peu, qu'on aimait évidemment beaucoup. C'est un film sur la transmission, ça rejoint tout ce qu'on est en train de se dire, puisque c'est exactement ça.
Oui, c'est l'histoire d'une bête, dans le monde des bêtes, le monde parallèle des bêtes, un monde médiéval, débarque un petit garçon légèrement rebelle, qui va finalement être formé par un maître, on l'entendait là engueuler son élève, et qui va en fait lui effectivement faire un travail de transmission auprès de cet enfant.
Pour qu'il soit prêt à la vie et mûr à y aller. Alors c'est amusant parce qu'en japonais, bon, je ne parle pas japonais, mais le film était plus dur, parfois même plus vulgaire, hein, et qu'on avait fait une version un peu plus douce pour la France, mais que finalement les dialogues en japonais, eux, sont aussi par leur histoire de manga et qu'on n'a pas forcément en France. C'est vrai qu'il y a une culture chez eux comme ça d'un vocabulaire très dur. En réécoutant là les paroles.
Oui, on a quand même la vision en France toujours d'un Japon un peu pur, un peu que ce soit les villes modernes ou la cérémonie du thé à Kyoto. Mais ils ont un côté très populaire, très très campagnard, quoi, avec
un peu trivial aussi.
On parle de cul, de sexe. Il y a des symboles. Il y a un dieu qui a une forme de petite crotte. Enfin voilà, il y a tout un univers comme ça qui nous est toujours un peu. On s'attend jamais à ça, quoi. Un peu paillard. Il y a un côté un peu paillard.
Le film est très paillard.
Voilà, et surtout si ça dans les campagnes et tout ça, c'est toujours aujourd'hui. Hein, ça l'est toujours. Les enfants adorent quand les gros mots, tout ça, c'est drôle.
Bon, bah alors ça tombe très bien parce que pour le côté, enfin pas vraiment paillard là pour le coup, mais en tout cas c'est le moment de la séquence, rien ne va plus. La séquence, rien ne va plus, ou alors en d'autres termes, le moment de la chanson de la honte. Je vous promets, la prochaine fois, Jean-Gabriel Perriot, vous choisirez votre chanson de la honte, qui sera peut-être d'ailleurs un slow japonais. Mais alors là, ce soir, c'était vous, Ariane Toscan-Duplantier, et donc vous nous avez apporté sur un plateau quelle chanson ?
Bibi, tout doucement.
Alors, on l'écoute, et après, vous expliquez, parce qu'il faut donner un alibi à Bibi.
Allez, écoutez, ça peut.
Tout doucement, envie de changer l'atmosphère d'attitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement, arrêter les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement, changer de peau, oublier toutes les avant. Fermer les yeux, se sentir de nouveau. Autrement, tout simplement.
Ah, rien de Toscan de Plantier, vous étiez en train de chanter. Non, là, allez, un petit coup.
Il faut la musique, au fond.
Alors, on peut remonter un peu la musique, parce qu'il faut qu'elle chante, allez.
Dans sa tête.
Donc alors, pourquoi tout doucement ?
Si encore il m'attend. Parce que c'est ma chanson de la honte. Vous savez, celle qu'on met à fond chez soi et qu'on chante à tue-tête, c'est les portes fermées pour que personne nous entende. Et puis, il y a 10 ans, je rencontre mon mari. On était chez des amis en week-end. Et tout le monde lui dit, allez, mets de la musique. Parce que c'est quelqu'un qui vit tout le temps en musique et qui a genre 35 jours de musique dans son ordinateur. Il sort son iPod. Et là, la chanson qui part, c'est Bibi. Bon, il avait déjà commencé une petite approche, quand même.
Ah, il avait commencé à draguer, quand même.
Sauf qu'il ne savait pas du tout que j'aimais à ce point-là cette chanson de la honte. Et je me suis dit, si cet homme-là a Bibi dans son iPod et l'assume, alors c'est que ma vie va se faire avec lui.
Merci beaucoup, Ariane Toscan-Duplantier. L'exposition 120 ans de Gaumont à Angoulême. Merci beaucoup, Jean-Gabriel Perriot. Lumière d'été, il faut absolument aller voir ce film. Dès demain et ce week-end,